Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot. This is why I'm hot.
France Culture, bienvenue dans Soft Power, magazine des industries créatives numériques jusqu'à 20h. Nous sommes exceptionnellement ce soir au Salon du Livre de Paris, Salon du Livre 2016, Livre Paris, c'est son nouveau nom, nom officiel. Et cette émission a été enregistrée en public cet après-midi, ici à la porte de Versailles, pour tenir compte des horaires d'ouverture du Salon. Édition La Relève, tel est le titre de notre émission ce soir. Comment se pratique le métier d'éditeur aujourd'hui? Qui sont les éditeurs qui composent d'une certaine manière la nouvelle génération? Quel regard portent-ils sur leur métier et le contexte dans lequel ils l'exercent? Et c'est encore plus important, comment voient-ils l'avenir de leur métier et de l'édition? Pour en discuter, j'ai choisi ce soir trois jeunes éditeurs, jeunes comme moi disons, ça vous fait rire, voilà. Trois éditeurs qui ne sont pas nécessairement les plus connus ou reconnus encore sur la place de Paris, mais qui ne demandent qu'à l'être. Trois éditeurs qui vont, espérons-le, nourrir la scène littéraire pendant les années à venir. À quoi pensent-ils? À quoi rêvent-ils? Leur métier existera-t-il toujours dans deux décennies? Autant de questions que nous évoquerons avec eux ce soir et en public. Je vous présente ces invités, deux femmes et un homme autour de cette table pour représenter cette édition en devenir. Sophie Charnavel, éditrice chez Fayard, bonsoir.
Bonsoir Frédéric.
Ludovic Escande, éditeur chez Gallimard, bonsoir.
Bonsoir Frédéric.
Hélène Fiamma, éditrice de Payot et Rivage, maison que par ailleurs vous dirigez, Hélène.
Bonsoir Frédéric.
Donc bonsoir à tous les trois. Toujours au sommaire de cette émission, nous essaierons d'évoquer avec des archives, vous les entendrez, l'édition telle qu'elle était auparavant, et voir aussi les différences avec aujourd'hui. Et puis sur un sujet parallèle, toujours dans ce sommaire aujourd'hui, nous aurons un alphabet numérique ce soir consacré à un sujet un peu décalé par rapport à l'édition, mais qui concerne quand même les mots, puisque ce soir nous parlerons du numérique et du digital. Les deux mots sont-ils synonymes? Peut-on les employer indifféremment? On en parlera avec Alexandre Moiti, chercheur associé à l'Université Paris Diderot, auteur de « Au pays de Numérix » aux éditions Presse Universitaire de France, et surtout d'un bel article, en fait deux articles dans Le Débat, dont un publié tout récemment, « Le numérique rattrapé par le digital ». Les auditeurs présents ici cet après-midi au stand Radio France au Salon du Livre pourront poser leurs questions tout à l'heure. Préparez-les, tout cela dans Soft Power jusqu'à 20h, à suivre sur Twitter. Au mot-clé Soft Power, sur notre playlist de Deezer, ainsi que sur Instagram, Medium, Facebook en podcast et sur France Culture depuis le Salon du Livre, Livre Paris en public. On entend le bruit de la foule, beaucoup de monde cet après-midi, en ce dimanche au Salon Livre Paris à la Porte de Versailles. Nos trois invités, Hélène Fiamma, Sophie Charnavel et Ludovic Escande, sont autour de la table. On pourrait commencer par une question à chacun d'entre eux, une manière aussi de se présenter. Je commencerai par vous, Hélène Fiamma. Vous avez été, et c'est un parcours au fond qu'on retrouve chez d'autres éditeurs, vous avez été en charge du bureau de livres à Londres. C'est un service de l'ambassade qui s'occupe de promouvoir le livre français. Vous avez été éditrice ensuite chez Flammarion. Et c'est finalement en 2013 que Françoise Nissen, la PDG d'Actes Sud, vous a choisi pour relancer Payot et Rivage, maison de sciences sociales et d'ailleurs aussi de policiers, que le groupe Actes Sud avait racheté. Ça se passe toujours comme ça, ces parcours d'éditeurs. On est dans certains nombres de maisons et puis on bouge de l'une à l'autre tout en continuant à défendre le livre dès le début, puisque c'était le cas lorsque vous étiez en charge du bureau du livre.
Je crois que le parcours d'un éditeur, de manière universelle, il commence par une passion pour le livre. Et que cette passion pour le livre, elle peut faire qu'un libraire, par exemple, devienne éditeur, qu'un journaliste devienne éditeur. Donc, au fond, pour devenir éditeur, les gens viennent d'horizons qui sont très différents. C'est peut-être un des métiers pour lesquels les formations... il y a des formations qui existent, bien sûr, mais vous pouvez...
Elles ne sont pas nécessaires ou obligatoires.
Absolument. Parce que je crois que mes confrères seront d'accord avec moi. Tout commence par la passion du livre. Et puis, c'est ensuite entré dans une maison d'édition. Je ne crois pas... les éditeurs peuvent changer de maison, bien sûr, mais le temps du livre est assez long. L'absorption d'un catalogue, ça prend du temps. Le fait de relancer une politique éditoriale, ça prend du temps. De sorte que l'édition, c'est pas non plus un métier où on passe d'une maison à l'autre tous les ans ou tous les deux ans. C'est pas tout à fait ce type de carrière.
Ces maisons ont aussi une identité assez forte parfois, et du coup on colle à certaines. Un éditeur ne peut pas être éditeur partout, par exemple.
Absolument. Il y a une espèce de consanguinité, de terroir, enfin, de la maison qui vous porte, qui porte l'éditeur. Il fait que l'éditeur peut aussi faire germer des livres dans cette maison.
À vos côtés, Sophie Charnavel, directrice éditoriale de Fayard, éditrice chez Fayard. On vous connaît notamment pour un certain nombre de livres qui ont été des best-sellers. Je pense au manifeste Qu'ils s'en aillent tous de Jean-Luc Mélenchon. Ça remonte un peu dans d'autres maisons. Les confessions de Juliette Gréco, l'apparition des mémoires des époux Klarsfeld, ou plus récemment chez Fayard, l'enquête d'Ariane Chemin, par exemple, dans les livres qui ont bien marché sur Patrick Buisson. On dit que vous allez chercher vos auteurs avec les dents.
Je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, moi, j'essaye d'aller là où mon envie me porte, en tout cas d'aller trouver des auteurs, des projets que j'aurais envie de défendre par-dessus tout et qui seront ce qui va être le plus important pour moi sur les semaines, mois, années à venir. Donc c'est vrai que j'ai plutôt tendance à aller où mon envie me porte plutôt que de répondre à un désir d'un auteur.
Comment est-ce que vous les... Au fond, c'est un travail de les connaître, de les approcher, d'être en lien avec eux. Et c'est cette passion d'abord pour l'auteur qui compte.
Je crois que ce qui fonctionne, c'est aussi, en tout cas moi, ce que j'aime expérimenter à chaque fois, c'est cette magie du moment où le projet qui a été créé avec l'auteur, où le texte qui a été travaillé jusqu'au bout, le moment où il arrive en librairie et où les étoiles s'alignent. Ou pas, parce que parfois les étoiles ne s'alignent pas. Donc d'avoir su un petit peu sentir cette ère du temps et ce livre qui va rentrer en résonance avec quelque chose qui va toucher le lecteur.
On peut même dire qu'avec plus de 70 000, 80 000 livres qui paraissent chaque année, finalement les étoiles s'alignent assez peu fréquemment.
Malheureusement, c'est vrai.
Comment est-ce que vous passez d'un genre à l'autre? Comment est-ce que vous arrivez à travailler dans des frontières, avec des frontières qui sont aujourd'hui peut-être un peu plus poreuses qu'auparavant?
Je pense, pour rebondir sur ce que disait Hélène, je pense qu'il faut bien se connaître soi, bien connaître l'éditeur qu'on est, pour aussi fonctionner avec une maison, avec une marque qui a un ADN et du coup qu'il faut respecter. Et donc pour ça, il faut être en adéquation. Donc après, quel que soit le secteur, je pense qu'être éditeur, c'est aussi savoir utiliser une grande souplesse, une gymnastique, savoir s'adapter au temps, aux livres et aux auteurs.
Ludovic Escande est éditeur chez Gallimard et il incarne la relève lui aussi dans cette honorable institution. Et vous êtes Ludovic Escande au comité de lecture de Gallimard. Je vous propose justement d'écouter un document d'archives. Il s'agit de Gaston Gallimard et je vous ferai réagir juste après. C'est évidemment, ça remonte un petit peu puisque c'était Gaston Gallimard qui évoquait sa définition d'un bon éditeur à l'époque à l'ORTF. C'était en 1959.
Alors je voulais vous demander aussi, Gaston Gallimard, s'il est vrai, comme on l'a prétendu souvent, que vous avez voulu être éditeur, ou plutôt vous n'avez pas cherché à être éditeur, vous avez simplement voulu être un homme qui possédait une bibliothèque qui aurait contenu les livres qu'il aurait aimé lire. Et vous vous êtes dit, au fond, plutôt que d'acheter les livres chez les autres éditeurs, je vais me faire moi-même éditeur des livres que j'aime, des manuscrits que j'apprécie. Est-ce que c'est vrai?
Oui, à partir du moment où j'ai été assis à une table et où j'avais des décisions à prendre, Je songeais aux livres que j'aimerais avoir dans des rayons...
Personnellement,
oui.
En somme, un bon éditeur serait celui qui ne publierait que les livres qui lui plairaient à lui personnellement.
À vous donner une certaine définition de l'éditeur.
Oui, c'est une certaine. D'ailleurs, je ne dis pas le meilleur éditeur au point de vue commercial. Je dis celui en qui correspondrait le mieux son activité personnelle et ses goûts.
Là, je vous dirais encore, mais ça a l'air prétentieux, que... Pour moi, l'éditeur est celui qui aime publier des livres qui ne se vendent pas.
Oui, vous voulez dire par là même les livres de qualité qui ne peuvent pas avoir un très grand public.
Oui.
Mais vous êtes arrivé...
Je suis tout le temps tenté
d'éditer des auteurs qui ne se vendent pas. Seulement ceux qui ne se vendent pas maintenant, Gaston Gallimard, s'ils ont de la valeur, c'est ceux qui se vendront très bien plus tard.
Ce qui se passera après ma mort, ça m'est égal.
Car finalement, l'arbre de Claudel et l'otage que vous avez publié, oui. Bien, l'otage maintenant est un des grands succès, non seulement de théâtre, mais même de librairie. Le livre se vend très bien.
Oui, oui, mais je ne pensais pas à ça.
Oui, alors les éditeurs feraient tous faillite s'ils avaient cette mentalité désintéressée.
Oui, c'est pour ça que je crois que, à partir du moment où vos suivres sont son goût, il faut savoir publier des séries noires pour supporter les frais d'une maison en attendant que les œuvres qu'on aime réussissent.
Voilà, Gaston Gallimard au micro de Robert Mallet sur les antennes de l'ORTF en janvier 1959. Il donnait sa définition de ce qu'est un bon éditeur, Ludovic Escande, celui qui aime publier des livres qui ne se vendent pas. On dirait peut-être pas exactement ça aujourd'hui ?
Non, on ne le dirait pas aussi.
Sans vous faire contredire obligatoirement l'un des fondateurs de la maison Gallimard.
Mais... Gaston Gallimard avait un côté très... il aimait bien l'humour, un côté un peu facétieux, et je reconnais bien là son esprit. Bien sûr, moi, je me rappelle que la même personne, Gaston Gallimard, est celui qui a suivi effectivement son goût, par exemple, en croyant depuis le début au succès qu'aurait plus tard Albert Cohen. Il a soutenu jusqu'au moment où il a sorti Belle du Seigneur, et ça a été une grande réussite, alors qu'au début, personne n'aurait donné gagnant cet auteur. Et la même personne a accueilli dans sa maison le début de la série noire. Donc il savait très bien, en effet, suivre son goût, puisque c'était un homme qui se connaissait, comme vous disiez tout à l'heure. Et en même temps, il avait un sens, je pense, assez instinctif de ce qui pouvait marcher, et en tout cas de ce qui permettait à sa maison d'équilibrer les auteurs qui allaient prendre de l'importance dans le futur, dont il avait l'intuition en même temps que les équipes qui l'entouraient, et au même moment il savait aussi intégrer des contraintes commerciales pour faire tourner la maison et pour la faire se développer.
Alors, sans parler de la relève avec obligatoirement Gaston Gallimard, est-ce que vous avez vu les uns les autres quelque chose changer entre, au fond, l'éditeur a toujours été un intellectuel, un chercheur d'auteurs, et aussi un commerçant qui s'intéressait au marketing, dont les idées d'un côté, le marketing de l'autre. Mais est-ce que vous avez vu ce rapport, cet équilibre se transformer ces dernières années ? Non, Sophie Charnavel.
Je ne crois pas qu'il y ait une transformation si... Évidemment, il y a une évolution, c'est-à-dire qu'il faut jouer aussi avec les outils de son temps, il faut jouer avec Internet, avec les réseaux sociaux, y compris pour aller chercher des nouveaux auteurs et donc leur parler, sentir cet air du temps. Mais fondamentalement, les choses n'ont pas changé. On peut considérer à peu près que 20% de notre production va financer 80%. C'est pas pour ça qu'on va pas faire les 80%, mais c'est vrai qu'on est dans un équilibre de construction qui est très aléatoire et très artisanal.
Ça veut dire
et magique.
Qu'il y a 20% de livres qui sont rentables suffisamment pour faire en sorte que les autres existent.
Exactement.
C'est une sorte de...
Après, à mon sens, le secret, c'est aussi d'essayer de ne publier, y compris dans ces 80 qui vont nous faire perdre de l'argent, que ceux
auxquels vous croyez vraiment.
Exactement.
Et qui peuvent avoir un avenir un jour.
En tout cas, où on sait pourquoi on les publie.
En même temps, Hélène Fiamma, il y a aussi des jeunes éditeurs qui, de plus en plus souvent, sont passés par des écoles de commerce, où on a des éditeurs qui ont même fait un MBA, ce qui aurait été peut-être impensable il y a 30 ans. Femmes et hommes de lettres, les éditeurs doivent aussi s'y connaître en chiffres.
Alors moi, je me permettrais de revenir sur ce que disait Gaston Gallimard, parce que je crois que la posture de l'éditeur, il faut quand même jamais l'oublier, l'éditeur signe un contrat avec un auteur, certes parce qu'il pense que c'est un excellent livre et que c'est pour ça qu'il le signe, mais surtout parce qu'il a un engagement auprès de l'auteur de vendre son livre. Il faut quand même pas oublier que si les auteurs veulent être édités, c'est pour être lus. Être lu, c'est vendre des livres. Et ça, je crois qu'il faut surtout pas l'oublier. Notre premier métier, c'est, à partir du moment où nous aimons un auteur et que nous publions son livre, c'est de le faire connaître. Ça passe par des ventes, française, ça passe par des ventes à l'étranger, ça passe par tout un travail sur le lancement dans la presse. Si nous n'apportions pas ça à l'auteur, je ne vois pas pourquoi il chercherait un éditeur. C'est notre premier mandat. Quant à la commercialisation des éditeurs, je n'en suis pas tout à fait sûre. Songeons par exemple comment dans les années 20 ou 30, tous les éditeurs qui étaient au fond un peu les mêmes qui existent encore aujourd'hui, en tout cas comme les noms de maisons n'ont pas beaucoup changé, la plupart d'entre eux n'hésitaient pas à indiquer que tel auteur en était à son 400 millième vendu, alors qu'on savait très bien qu'il fallait diviser les ventes par 10. Donc ces choses-là, elles ont toujours existé.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un éditeur un peu gestionnaire qui apparaît, qui serait au fond une troisième catégorie après l'éditeur purement commerçant ou intellectuel, celui quand même qui doit gérer les uns les autres, Ludovic Esquinde peut-être?
Écoutez, moi je souscris à ce que tu viens de dire au sujet de l'obligation de vendre les livres.
Ça s'adresse à Hélène Fiamma, hein, le voilà. Tu.
Pardon, oui. Mais je rappelle quand même, et je le dis aussi au public qui regarde et qui est là, c'est que mon métier consiste beaucoup, la moitié de ma journée, je le passe à lire des manuscrits. Voilà, ça c'est très important, ça n'a pas changé. En dépit du fait qu'aujourd'hui, il y a des tablettes numériques, qu'il y a une prolifération de l'image, oui, il faut vendre le livre, mais il faut, avant de le vendre, d'abord le lire et instaurer une relation de confiance avec l'auteur qui permette ensuite que cette relation puisse fructifier et qu'ensuite on puisse faire exister le livre hors de la maison.
Sophie Charnavel.
Moi, je pense que c'est vraiment deux choses assez différentes. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, les éditeurs n'ont pas un certain pragmatisme, y compris, ils ont accès à des chiffres de vente, ce qui n'était pas forcément le cas avant, où on était plus dans le pur esprit, dans son bureau, tout seul, et l'argent, c'était le directeur commercial. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi...
Tout ça sur un ordinateur, assez rapidement.
Bien sûr, on est dans les chiffres, et comme disait très bien Hélène, on est là aussi pour faire en sorte que nos auteurs vendent des livres et trouvent un public. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Après, ce qui peut être de l'ordre du pur gestionnaire, c'est super, c'est fantastique, mais ça ne remplacera jamais un éditeur dans sa relation à l'auteur.
Quelles sont les questions, finalement, qui vous paraissent celles de votre génération? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce que vous allez ajouter parmi les sujets centraux qui ont toujours été ceux des éditeurs? Qu'est-ce qui va être différent par rapport à avant, selon vous, les uns les autres?
Quand je suis rentré dans le métier de l'édition en 2000, j'ai commencé par faire un stage chez Actes Sud de 3-4 mois et ensuite je suis rentré chez Gallimard pour faire un stage. J'ai été intégralement formé dans la maison Gallimard par Antoine Gallimard et les autres éditeurs. Ce qui est fascinant, c'est qu'au moment où je rentre en 2000, dans ce même salon du livre, il y a un événement qui fait la une, c'est que vient de d'être mise au point la première tablette sur laquelle on peut lire des livres. Et j'ai le sentiment, donc en rentrant dans le métier de l'édition en 2000, que ce monde va profondément changer. Eh bien, nous sommes en 2016, il a changé, effectivement.
Mais peut-être pas aussi profondément
exactement
que ce que vous pensiez.
Ouais. Et ça, en 17 ans, effectivement, ça a fait bouger certaines lignes, mais pas autant qu'on l'avait prédit. Je vous rappelle quand même qu'en 2000, on pouvait lire ça et là dans la presse que le livre était amené à disparaître en 2 ans et qu'il allait suivre l'exemple
de la musique, notamment
de la musique,
des CD, des disques,
exactement,
vinyles.
Et ça ne s'est pas passé comme ça. De la même manière, on avait prophétisé que les auteurs seraient perdus, il y aurait une dématérialisation totale du rapport. Non, aujourd'hui, plus que jamais.
Qu'est-ce qui a changé, alors, malgré tout? Qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, face à la vitesse et à l'accélération des échanges, face à un monde qui est en perpétuelle recherche de nouveautés, il faut que l'éditeur soit celui qui tienne bon et qui sache, bien sûr, accompagner ces changements, mais sans perdre la tête, sans perdre de vue que son travail s'inscrit dans le temps, dans la longueur, et que pour faire émerger une œuvre, que pour faire émerger un écrivain, et que pour que ses ventes augmentent et qu'il soit de plus en plus lu et connu, il faut aussi savoir travailler dans un temps plus long. Voilà. Et c'est ça, c'est combiner les deux. La vitesse, l'accélération avec la course de fond.
Édition La Relève, tel est le sujet de Soft Power ce soir, une émission en public, le public justement qui est présent ici sur le stand Radio France au Salon du Livre pourra intervenir tout à l'heure, réagir et poser des questions. Nous sommes avec trois éditeurs, incarnant pour, à nos yeux en tout cas ce jour, cette nouvelle génération. Ludovic Esquinde qui parlait à l'instant, éditeur chez Gallimard, Sophie Charnavel, éditrice chez Fayard et Hélène Fiamma, éditrice de Payot et Rivage. Trois petites questions avant de retrouver l'alphabet numérique. Vous les prenez... qui veut répondre peut intervenir. Il y a deux femmes autour de cette table. Les métiers de l'édition ont toujours été assez féminisés, mais on observe quand même l'arrivée de nombreuses femmes à la tête de maisons d'édition ou à leur direction littéraire, ce qui est un phénomène peut-être, lui, pour le coup, relativement nouveau, hein, par son ampleur. Il y a eu des Françoise Verny, il y a toujours d'ailleurs des Odile Jacob, il y a Thérèse Crémisi, Anne-Marie Métellier, etc. Mais est-ce que vous voyez, peut-être, Sophie Charnavel, je ne sais pas, les femmes présentes à des postes de plus haut niveau dans l'édition ? C'est votre cas, notamment, mais...
On peut considérer que l'édition, même si c'était un bastion où, en effet, il devait y avoir quoi, 80% de femmes, mais qu'on retrouvait à des directions 80% d'hommes, on pouvait considérer... Moi, je me souviens, en fait, il y a quelques années, pour la première fois, je vais à la foire de Francfort, qui est le lieu où on achète tous les gros coups, les best-sellers. C'est vraiment the place to be. Et je m'aperçois dans le grand hôtel où tout le monde se retrouve le soir qu'il y a quelques femmes et que des hommes. Et là, je me dis, il y a quand même encore un petit peu du boulot. Donc, on va considérer que ce travail a commencé.
Chez Fayard, il y a notamment Sophie de Closet qui est PDG de la maison d'édition. Comme quoi, c'est à tous les étages, on pourrait presque dire. Une réaction, Hélène Fiamma, sur ce sujet ?
Je suis tout à fait d'accord avec Sophie. Chez Payot et Rivage, la proportion doit être aujourd'hui de 60% de femmes et 40% d'hommes. Donc, je souhaite deux choses. C'est que d'une part, les directions se féminisent comme elles sont en train de le devenir, et ça c'est bien, mais il ne faudrait pas non plus que l'édition soit un métier exclusivement féminin, parce que la parité, ça marche dans les deux sens.
Autre question sur le rajeunissement de cette profession. Longtemps, on avait des grands noms qui étaient d'ailleurs fort célèbres. On en écoutera d'autres au cours de l'émission. On a l'impression que il y a de nouveaux exemples et de nombreux exemples où des jeunes éditeurs ou parfois managers ont été propulsés à la tête de maisons comme je citais Sophie de Closet chez Fayard, mais aussi Gilles Aéry chez Flammarion, en passant par Hugues Jalon, patron de La Découverte. C'est une nouvelle génération d'éditeurs qui arrive aux commandes un peu partout, vous diriez, les uns les autres ?
Oui, qui...
Ludovic Esquinde ?
Oui, qui arrive... C'est le mouvement naturel du renouvellement, de la transmission. Et effectivement, je parle de la maison où je travaille, je vois effectivement des nouvelles têtes arriver en même temps que moi. Et pour ne prendre qu'un seul exemple, la propre fille d'Antoine Gallimard a quatre filles. Et Charlotte Gallimard est devenue, à 35 ans, la directrice de Casterman, et sa deuxième fille, Laure Gallimard, vient de rentrer chez Gallimard, et voilà.
Alors là, c'est un autre débat, celui de l'hérédité, de la transmission dans l'édition, mais...
Ça fait partie de ces jeunes, et puis au comité de lecture est rentré il y a pas très longtemps Maëlys de Kerangal, qui aussi porte avec elle une nouvelle génération, voilà.
Réaction sur cette question.
Je pense que c'est aussi lié au fait, peut-être que c'est une analyse personnelle, mais qu'il y a eu une génération qui est la génération de baby-boomers, qui est restée peut-être un petit peu...
Trop longtemps, vous diriez ?
J'irai pas jusque-là, mais en tout cas,
longtemps.
Accrochée à des postes de direction, qui fait qu'il y a aussi une génération de... Peut-être des éditeurs qui aujourd'hui ont une cinquantaine d'années et qui ont soit dû partir monter leur propre maison d'édition pour arriver à des directions. Et donc, de fait, il y a une génération naturelle qui est arrivée et qui est beaucoup plus jeune que la génération des cinquantenaires qui aurait dû prendre des têtes de maison d'édition.
J'aimerais juste ajouter quelque chose, c'est que ma propre expérience du métier d'éditeur, vous voyez, j'ai 43 ans. Ce métier, ça fait 15 ans que je le pratique, et il m'a fallu bien 7 ou 8 ans pour savoir le faire. C'est un métier qui est très 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 long à apprendre, et à connaître. D'où aussi, je pense, ce dont vous parlez tout à l'heure, c'est-à-dire le renouvellement. Ça prend du temps de devenir éditeur, et un bon éditeur, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc voilà, il faut aussi avoir cette...
Alors laisser le temps de grandir d'une certaine manière.
Absolument.
Dans la deuxième partie de cette émission, on parlera de l'évolution de l'édition, pour sortir juste du rôle des éditeurs, l'évolution aussi du livre, notamment du livre électronique, l'avenir du livre papier. Et puis, dans une troisième partie d'émission, on évoquera ce rôle nouveau peut-être, et ces nouvelles formes de prescription, notamment les prescripteurs, l'avenir de la critique, le rôle des libraires aussi comme prescripteurs. Tout ça dans Soft Power ce soir, une émission consacrée à l'édition, et notamment à la relève dans l'édition.
Soft Power, l'alphabet numérique.
L'alphabet numérique, notre séquence qui décrypte les internets autour des mots du web, ses expressions, ses tendances ou ses évolutions. Et ce soir, nous évoquons en public depuis le Salon du Livre 2016, Livre Paris à la porte de Versailles, nous évoquons le digital et le numérique. Deux mots avec Alexandre Moiti, chercheur associé à l'Université Paris Diderot, auteur de Au pays du numérix et de plusieurs articles récents dans la revue Le Débat sur le numérique, notamment rattrapé par le digital. Alors deux mots, digital et numérique, qui sont souvent employés et utilisés en France comme des synonymes. Alors vous montrez, Alexandre Moiti, dans votre article du Débat, qu'ils ne veulent pas d'abord forcément dire la même chose, qui n'ont bien sûr pas du tout la même étymologie.
Oui, alors déjà je remarquais que pratiquement il n'y a qu'en France qu'on utilise, bien que le terme digital arrive, qu'on utilise le terme numérique. C'est-à-dire que même dans les langues latines, comme l'italien, l'espagnol,
le digital
a gagné. On n'a jamais employé ce terme numérique, qui est assez particulier et qui était un adjectif. Au départ, on parle de télévision numérique qui va remplacer la télévision hertzienne. Là, je vous parle il y a 4-5 ans, la photographie numérique, le cinéma numérique. Et c'est devenu un substantif, si vous voulez. Donc l'adjectif est devenu un substantif. Ça, on parle du numérique,
le numérique. Voilà. Centre Conseil national du numérique.
Absolument. Et avant, même dans les cercles administratifs et politiques, on parlait des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les NTIC. Et le terme a rapidement été,
Oui, c'est plutôt un progrès quand même, parce qu'un NTIC, c'était horrible.
Oui, c'était quasi incompréhensible, mais enfin, c'était comme un
numérique,
code presque.
Numérique, c'est une sorte de progression.
Absolument, mais je vous rappelle qu'encore il y a 5-6 ans, il existait un conseil supérieur des technologies de l'information. Maintenant, c'est un conseil national du numérique. Donc, le numérique est devenu une manière de définir un domaine.
Vous dites que numérique, ça se ringardise d'une certaine manière et que ceux qui sont les plus en avance, les geeks, les startups, etc., eux, du coup, ils utilisent digital pour un peu ringardiser numérique. Et là, les linguistes, et dont vous n'êtes pas exactement, mais quand même un peu, sont pas contents.
Je ne prends pas position comme ça, et puis je ne suis pas sûr que digital remplace totalement numérique. Ce que je remarque, c'est qu'en effet, alors que dans la langue française, on était avec l'adjectif numérique, puis le substantif le numérique, on voit de plus en plus apparaître le terme digital.
L'irruption de l'adjectif digital.
L'irruption de l'adjectif digital.
Alors, France Digital, par exemple.
Absolument. D'ailleurs,
Digital Champion.
Il y a quelqu'un qui donne une interview aux Échos, notre Digital Champion. En 2013, il dit c'est la transformation numérique du CAC 40. Une année après, le même interview, presque un marronnier, il dit un électrochoc digital pour le CAC 40. Hein. Donc, vous voyez, on voit bien un an d'écart apparaître comme ça. Alors, une distinction.
Au lieu de... Enfin, on peut ironiser sur ça, mais quelle serait la vraie définition des deux mots si on veut remonter à leur sens véritable, et notamment ce mot de digital qui, en français, a quand même un lien quand on utilise, par exemple, empreinte digitale. Même si elles sont digitalisées, on ne dirait pas des empreintes digitales digitalisées, on dirait numérique, du coup.
Oui, absolument. Digital, c'est le doigt, et numérique, c'est énumérer, si vous voulez. Donc, je ne suis pas linguiste, j'observe plus les usages du numérique, mais ce qu'on pourrait interpréter, en fait, si on regarde ces usages, c'est finalement une uniformisation liée à la mondialisation. Enfin, la langue suit la mondialisation, et cet effet un petit peu très particulier qu'il y avait en France, qui était d'utiliser le terme numérique, s'estompe. Mais je signale une forte rémanence du terme numérique. On l'entend même dans des expressions tout à fait étonnantes, comme, je la relève dans mon article, une rentrée très numérique au collège de Valence. Vous voyez, avec un superlatif, vous voyez, c'est donc le numérique se défend bien encore.
Est-ce que c'est pas aussi la question de l'anglicisation de la langue française qui, à travers on pourrait presque dire ce détail de ces deux synonymes qui n'en sont pas vraiment, apparaît aussi au grand jour?
Oui, mais bien sûr, je pense qu'il y a un aspect uniformisation à la fois sémantique qui s'inspire de la langue anglo-saxonne et de la mondialisation qui elle-même est induite par Internet, si vous voulez. Donc,
mais est-ce qu'il n'y a pas donc du coup des combats plus importants parce qu'il y a tellement de mots anglo-saxons qui sont repris dans la langue française que finalement, digital est presque un moindre mal?
Attendez, moi je ne suis pas du tout en train de... J'essaye d'observer, si vous voulez, ces évolutions d'un terme à l'autre.
L'Académie française semblait très furieuse. Il y a une petite notule qu'elle a publiée en novembre 2013 pour dire qu'il fallait conserver au digital son sens relatif au doigt, hein, une empreinte digitale, et du coup qu'il fallait plutôt utiliser numérique. Mais comme d'habitude, elle a été assez peu... suivi. Au contraire, en plus, elle parle, en plus, on se met à utiliser digital.
Donc. Oui, je crois qu'une langue doit être vivante. Hein, donc, ça, c'est on va pas. Le but n'est pas de pleurer sur le fait que le numérique, mais d'essayer d'observer un petit peu ça. Et ça me fait penser à ce que vous disiez tout à l'heure là sur le Salon du Livre en 2000. Enfin, votre arrivée dans l'édition en 2000, les premiers livres électroniques, et ce qui n'est pas arrivé finalement, ou ce qui arrive beaucoup plus lentement, c'est ce qu'on peut appeler des injonctions, ce que j'appelle, enfin, des injonctions à caractère technoprophétique, c'est-à-dire du technoprophétique. On va vous dire, ah ben demain, vous allez voir ce que vous allez voir. Et peut-être qu'il y a ça dans cet aspect, le digital, la transformation digitale de l'entreprise. Voilà, on vous dit, vous avez fait le numérique, maintenant, c'est pas suffisant, il faut passer au digital. Et c'est un peu cette évolution, avancer à marche forcée aussi. Il y a cet aspect injonction technoprophétique qu'on trouve dans ces termes. Et c'est ça qui est.
Donc finalement, numérique et digital, souvent identiques, mais en réalité pas pareil, on pourrait dire ça en conclusion.
Oui, tout à fait. Je dirais simplement peut-être une troisième interprétation. Puis c'est que aussi le numérique, c'est quand même beaucoup. Je dis, et il lâche pas de terrain le numérique. Le terme numérique, il est notamment les milieux culturels ici au départ un peu réticents. C'était le numérique épouvantail un petit peu. Faut bien dire ce qui est. Il y a 4-5 ans, maintenant a adopté ça et c'est même un objet de débat et de controverse. Et mon hypothèse, c'est aussi parce que c'est un objet de débat et de controverse maintenant, le numérique, que des milieux un peu avancés de start-up, des milieux technoprophétiques, essayent de pousser le terme digital aussi. Voilà, c'est une troisième interprétation de cette transition digitale, on va dire. Voilà.
Transition digitale qui est aussi numérique. Alexandre Moati, chercheur associé à l'Université Paris Diderot, auteur du livre « Au pays de Numérix », publié aux Presses universitaires de France, et d'une série d'articles, notamment deux articles publiés dans Le Débat, le dernier en janvier-février 2016, « Le numérique rattrapé par le digital ». Pour aller plus loin, vous pouvez consulter articles, ouvrages et références sur les réseaux sociaux, mot-clé « soft power ». Vous pouvez également vous abonner au podcast « L'alphabet numérique » sur le site franceculture.fr, ainsi que sur iTunes. C'est pour tous les anciens mots de l'alphabet numérique, qui est aussi un alphabet digital. Ce soir, consultez notre page alphabetnumérique.com. Nous sommes ce soir en public au Salon du Livre 2016, Livre Paris, avec Sophie Charnavel, elle est éditrice et directrice littéraire chez Fayard, Ludovic Escande, éditeur chez Gallimard, et Hélène Fiamma, éditrice et directrice de Payot et Rivage. Alors on a évoqué en début d'émission, au fond, le rôle, la mutation du rôle des éditeurs. Venons-en non seulement à l'édition, mais aussi au livre lui-même. Quelles seraient les évolutions majeures que vous constatez actuellement dans ce secteur? Évidemment, en creux ou en lien, se pose la question du livre électronique. Hélène Fiamma.
Sur ce point, je rejoins ce que disait Ludovic Escande avec cette...
Vous avez vu comme ils sont polis, ces éditeurs, tout le temps, ils se renvoient. Oui, c'était très bien ce qu'a dit le précédent.
On est un petit monde, vous savez, nous, les éditeurs.
Tout le monde se connaît, c'est ça que vous voulez dire.
On est un petit monde.
Vous tutoyez, j'ai vu, d'ailleurs.
On a même intérêt à s'entendre face aux questions numériques actuelles, puisque... Ouais. Il y a de tels coups de boutoir d'Amazon et de Google qu'il vaut mieux que nous-mêmes, on sache s'entendre pour protéger la profession et protéger les auteurs. Pardon de vous avoir coupé.
Hélène Fiamma.
Non, mais vous avez tout à fait raison. Et j'ajouterais que même si nous sommes bien sûr rivaux, dans une large mesure, nous sommes les protecteurs, nous sommes les gens du livre. Donc, quand les livres marchent, c'est la concurrence. Moi, ce que je retiens, c'est que les livres marchent et que les gens lisent. Et ça, c'est merveilleux. Donc, pour revenir au numérique, le numérique se développe évidemment en France, mais je crois qu'aujourd'hui, en 2016, on peut tous se dire que c'est un développement parmi d'autres et que le livre papier, dont je rappelle quand même qu'il a connu une croissance en 2015 pour la première fois depuis 5 ans. Hein, le marché du livre a été en retrait pendant 5 ans et il a progressé l'année dernière. Le livre papier est prospère et le livre numérique le sera à sa façon, mais qui est une façon sectorielle.
Avec plus de 360 millions de livres vendus, avec un chiffre d'affaires qui dépasse les 4 milliards d'euros pour donner un ordre de grandeur. Sur le livre numérique, quand même quelques chiffres, et peut-être vous pouvez les commenter parce qu'elles sont souvent, ils sont souvent débattus, ces chiffres. Ce que l'on sait à ce stade, notamment à partir des études existantes aux États-Unis, c'est que 28% à peu près, donc un peu moins d'un sur trois des Américains ont lu au moins un livre électronique en 2013-2014. C'est des chiffres qui datent déjà d'un ou deux ans. 69% un livre papier quand même, et seuls 4% des Américains seraient passés intégralement à une lecture numérique. La lecture d'e-books par ailleurs a augmenté constamment entre 2011 et 2015 sur liseuse, notamment de 41 à 57%, sur tablette de 23 à 55% et surtout également sur smartphone. Donc au fond, l'une question que j'ai envie de vous poser à tous les trois, est-ce que c'est parce que on n'a pas trouvé le bon device, comme on dit en bon anglais, c'est-à-dire le bon appareil? Est-ce qu'un iPod du livre pourrait arriver un jour, ou est-ce que au fond, le plafonnement, c'est pas un échec, mais un certain plafonnement du livre numérique a d'autres explications, selon vous, Ludovic Escande?
Je pense, je vais vous faire deux réponses sur ça. La première, c'est une chose plus personnelle, c'est quand je lis un livre sur un iPad ou sur un Kindle, puisque j'ai les deux, il y a une perte du plaisir. Donc effectivement, aujourd'hui, la machine n'arrive pas autant à procurer ce plaisir. Quand je lis un livre sur iPad, j'ai l'impression de travailler, parce que beaucoup de gens travaillent sur ordinateur, et quand ils se retrouvent chez eux à lire un livre sur iPad, on a quelque part le sentiment de prolonger sa journée de travail.
Mais alors, quels sont les avantages?
On peut transporter plus facilement les livres.
On peut les annoter, ce qui est vrai aussi d'ailleurs bien sûr sur le papier. On peut avoir accès à des dictionnaires qui vont vous expliquer des mots, etc.
On peut les offrir.
Ce
n'est pas le cas.
Ça, vous parlez des livres
avec
papier.
Avec l'e-book, bien sûr.
Oui. Est-ce qu'on constate des évolutions différentes selon les genres? Par exemple, on a vu que les best-sellers, les romans en général, et les romans à l'eau de rose en particulier, type Arlequin, etc., étaient assez bien vendus en numérique. Le crime aussi, le thriller, les policiers, certains livres pratiques, les livres audio ont été les premiers à basculer dans le numérique. En revanche, contrairement à certaines prévisions, les livres pour enfants, les guides de tourisme, les manuels scolaires, les essais sérieux, eux, ne basculent pas dans le numérique. Vous avez ce type d'informations, vous aussi?
Il y a une croissance du livre, du secteur du livre pour les enfants qui est permanente, qui continue, qui est très forte. Tout à l'heure, on soulignait le fait qu'en 2015, il y a eu... Une chose, moi, est importante à mes yeux, c'est que tant que le livre pour enfants continuera à autant être vendu, c'est le signe que...
Une vitalité,
mais oui,
puisque les nouvelles générations sont
mais bien
là.
Sûr, ouais. elles auront... Les enfants sauront faire la différence entre un écran et un livre. Et tant que le jour où le livre papier disparaîtra, ça commencera par une baisse, par un effondrement de livres pour les enfants.
Cela étant, ils savent aussi ce qu'est un smartphone, ils savent aussi ce qu'est...
Bien sûr, mais ils font la différence.
Sophie Charnavel.
Mais c'est justement là, parce qu'on pourrait se dire, ok... On est jeune, mais plus tant que ça, hein, quand même. Donc, il s'agit d'un débat de digital native, pour revenir à une expression tout à l'heure. Mais on voit que le Petit Quotidien, vous savez, qui est ce journal pour enfants, a fait une étude auprès de tout jeunes lecteurs, parce qu'ils ont entre 7 et 12 ans, et que sur « est-ce que vous préférez lire votre Petit Quotidien sur la tablette ?» ou sur le papier, à la grande majorité, ils préfèrent le papier. Donc il ne s'agit pas de digital natif. Je pense que le papier a encore quelque chose que le numérique n'a pas.
Hélène Firmin.
Je crois qu'en effet, il ne faut pas s'exagérer le, comment dirais-je, le degré de techno-équipement de nos enfants. Et rappeler une chose, c'est que les tout petits enfants aujourd'hui, comme nous, comme les gens il y a 100 ans, 200 ans,
racontent encore des histoires.
Et surtout, ils apprennent à écrire à l'école, hein, avec un stylo. Et ça, tant que ça ne changera pas, ces gens-là appartiendront au même monde que nous. Ça basculera quand les enfants n'apprendront plus à écrire avec un stylo.
Est-ce qu'on observe du fait du numérique des évolutions sur les formats et les genres? On peut le dire aussi, je ne sais pas, les séries télévisées influent-elles sur la manière de raconter des fictions? Ou est-ce que aussi certains titres qui auraient été publiés strictement dans des collections de polar il y a quelques années vont se retrouver dans des collections blanches chez Gallimard, ou pour prendre La vérité sur l'affaire Harry Kéber par exemple, le best-seller de Joël Dicker, paru en 2012 chez De Fallois, il paraît en couverture blanche, pour prendre cet exemple, Hélène Fiamma.
Oui, très clairement, ça c'est une des caractéristiques, me semble-t-il, du marché aujourd'hui. Ce qu'on appelle le genre, c'est-à-dire le polar, la science-fiction, la fantasy, n'est plus du tout aussi compartimenté que ça ne l'a été. Et qu'on voit paraître en littérature dite blanche, donc dans des collections nobles, des livres qu'autrefois on aurait publiés en polar ou en SF. Mais... ce mouvement reste le fait qu'un éditeur décide de publier tel ou tel livre dans telle ou telle collection, ça reste du travail de haute couture, parce que ça n'est absolument pas un mouvement massif. Autrement dit, pour des raisons un peu étranges, je ne sais pas si mes confrères seront d'accord avec moi, mais vous allez décider de publier en blanche tel auteur, mais vous vous dites aussi que tel autre auteur de polar, par exemple, ne marchera pas si vous le mettez en blanche. Et l'expliquer, c'est difficile.
Blanche, ça signifie les collections un peu prestigieuses de littérature. D'ailleurs, ça vient sans doute de la collection blanche de Gallimard, Ludovic Escande.
Oui, j'observe aussi une chose, c'est que de plus en plus, le thème du numérique lui-même, ou du digital, et concrètement les tweets, les SMS, les mails, s'invitent, sont des thèmes qui sont pris en charge de plus en plus par l'univers des romanciers. Par l'imaginaire romanesque. Par exemple, Marisha Pessel, qui a publié en début d'année Intérieur Nuit, intègre à l'intérieur de son roman, un roman américain, elle intègre des mails. Camille Laurence, qui a publié un roman, raconte l'histoire de quelqu'un qui prend un faux profil Facebook pour piéger son amant. Tout à l'heure, vous parliez d'un livre de Dave Eggers qui s'appelle Le Cercle,
oui, qui paraîtra chez Gallimard en avril.
Voilà, et ce...
qui c'est raconte au fond Google sous une autre forme, un livre fascinant.
Et de la même manière que les séries ont certainement, puisque les auteurs sont des gens extrêmement curieux du monde dans lequel ils vivent et qui sont des éponges et qui intègrent ces modes de narration, de la même manière que les séries ont peut-être une incidence sur le rythme des romans, j'observe aussi sont intégrés dans le roman une manière d'écrire à certains endroits du texte qui sont sous la forme de mails et plus de lettres.
Est-ce que les goûts des lecteurs changent, leurs envies évoluent-elles, Sophie Charnavel?
Je ne sais pas si leur envie y évolue. En tout cas, moi, il y a une chose que j'ai remarquée ces deux dernières années, et je trouve que pour le livre et pour l'édition, c'est quand même une très bonne nouvelle. Vous savez, il y a tout un nouveau courant, y compris qui est né sur le net, de gens qui sont très actifs sur YouTube, sur Twitter, etc., et qui ont des millions de followers. Quand ils publient un livre, puisqu'on pourrait considérer qu'ils ne vont... uniquement communiquer que sur leur outil, c'est-à-dire le net. Quand ils publient un livre, c'est des milliers d'exemplaires qui sont vendus.
C'est-à-dire c'est le cas de la poésie, par exemple, autour des insta-poètes, de certains booktubers sur YouTube.
Exactement, et on l'a vu avec des jeunes femmes qui ont eu un succès considérable. On voyait, ça m'a rappelé la sortie d'Harry Potter sur la jeunesse, ouais. Mais on voyait 200 000 ventes de manière... toutes ces jeunes femmes, parce qu'il s'agit souvent de femmes un peu jeunes, se ruent en librairie pour acheter un livre.
France Culture, la relève de l'édition, c'est le sujet qu'on traite ce soir dans Soft Power. La transition est toute faite avec la dernière partie de cette émission qui sera consacrée au rôle des prescripteurs, questions qui seront ouvertes au public juste après le tout nouvel album d'Iggy Pop.
Life is an empty beach, don't cry.
à l'instant, le dernier album d'Iggy Pop qui est sorti ce vendredi, post-pop dépression. Le morceau Chocolate Drops que nous écoutions est co-signé avec le musicien Joss Homme, chanteur et guitariste du groupe Queen of the Stone Age, également membre des Eagles of Death Metal. L'album rappelle aussi David Bowie qui, dans les années 70, avait co-composé et produit deux albums d'Iggy Pop. Ces deux albums, The Idiot et Lust for Life, ont d'ailleurs été repris dans leur quasi-intégralité par le chanteur Iggy Pop mercredi dernier sur la scène du festival South by Southwest à Austin, Texas, pour un concert qui, dit-on, restera dans les annales. Une manière pour Iggy, peut-être, de rendre hommage à Ziggy. C'est Soft Power jusqu'à 20h, magazine des industries créatives numériques de France Culture. Vous pouvez vous abonner à nos deux podcasts, Soft Power et l'alphabet numérique, sur le site franceculture.fr ou sur iTunes.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Nous sommes ce soir avec trois éditeurs en public au Salon du Livre. Sophie Charnavel, éditrice chez Fayard, Ludovic Escande, éditeur chez Gallimard, et Hélène Fiamma, éditrice chez Payot et Rivage. Également avec nous Alexandre Moati, chercheur à l'Université Paris Diderot. Sur tous ces sujets que nous avons évoqués, vous pouvez consulter notre article avec toute une série de références sur Medium, ainsi que sur Twitter au hashtag SoftPower. Sur Medium, on a mis tous les articles, les débats qui ont lieu en ce moment autour de l'édition, si vous voulez aller plus loin après ou pendant cette émission. Quatrième et dernière partie, le rôle des prescripteurs ce soir. Et ce sera très vite l'occasion d'ouvrir le micro, la parole à la salle. Et s'il y a d'ailleurs une ou deux questions, on peut les prendre maintenant. Première question.
Oui, je ne veux pas me présenter, je suis simplement quelqu'un qui est au salon là aujourd'hui. J'ai remarqué ce que vous avez dit, il y a une expression en américain qui dit « reflection of the past », c'est-à-dire, vous traduisez directement, on a l'impression que le livre qui a duré depuis 400, 500 ans, depuis Gutenberg, il y a un nouveau Gutenberg maintenant, c'est l'ordinateur. Donc le numérique, ou comme vous dites, le digital. Grâce à ça, on peut avoir une bibliothèque entière, même la Bibliothèque de France, dans un tout petit appareil. Alors ma question est très courte. Est-ce qu'il y aura-t-il la possibilité de trouver des vrais éditeurs, là, des vrais éditeurs dans le numérique? Parce qu'actuellement, quelqu'un peut publier son livre sans passer par un éditeur.
Alors, est-ce qu'il y aura, très bonne question, est-ce que vous aurez des homologues, des confrères qui seront peut-être spécialement des éditeurs numériques, ou est-ce que vous allez faire ce métier-là aussi?
Mais certains s'y sont
Sophie
essayés.
Sophie Charnavel.
Certains s'y sont essayés. Peut-être qu'il va y avoir une évolution. Moi, je pense que la vraie question, elle n'est pas tant sur la vente du livre en numérique que des plateformes qui vendent ces livres. On parlait tout à l'heure de la croissance du livre sur la dernière année. La croissance du livre et du marché repose essentiellement sur les 3000 libraires indépendants. Et je pense que, en fait, le nœud est le nœud du fait qu'en effet, vous parliez de solidarité des éditeurs. Je pense que c'est là où il faut absolument que notre savoir-faire et qu'on appuie absolument ce savoir-faire et qu'on aide les libraires à continuer à faire leur travail. Parce que la vraie différence, c'est que un lecteur qui veut trouver un livre, il va sur une plateforme, il achète uniquement ce livre. Un lecteur qui va en librairie pour trouver un livre, il ressort souvent, je ne sais pas si ça vous est arrivé, avec 2, 3, 4 livres. Donc nous, la vraie différence, c'est qu'il faut absolument qu'on reste dans ce métier de l'offre et pas qu'on bascule vers un métier de la demande.
Le libraire joue un rôle capital dans la vie littéraire française, et si vous voulez, si le libre service rend de très grands services, et, permet notamment la diffusion des ouvrages de grande notoriété, ce qui ne veut pas forcément dire que ce sont de mauvais livres. En revanche, comme son nom l'indique, le libre service ne peut pratiquement rien faire pour promouvoir des auteurs inconnus, et ce travail là a toujours été fait et est encore fait actuellement dans une très très large mesure qui dépasse 90% par les libraires, que ce soit les petits ou les grands libraires. Il y a des très grands libraires qui font également ce travail. Et le jour où, pour des raisons qui sont malheureusement faciles à envisager aujourd'hui, les libraires ne pourront plus faire ce métier-là, eh bien personne ne le fera à leur place. C'est tout. Et bien entendu, les éditeurs ne publieront plus ces livres.
Une défense du rôle du libraire par Jérôme Lindon, alors directeur des éditions de Minuit, et décrivait dans Les Nuits Magnétiques, c'était sur France Culture, le rôle selon lui décisif du libraire. Nous étions en 1980, la FNAC avait fait son entrée sur le marché du livre quelques années auparavant, et la menace qui planait alors était ce que Jérôme Lindon appelait le libre service. Comme quoi les éditeurs ne sont pas toujours de bons prophètes, mais pour ce qui le concerne, il a toujours défendu le rôle des libraires. À ce sujet d'ailleurs, je souhaite signaler la parution de Manifeste pour la librairie et les lecteurs. C'est un ouvrage publié aux éditions Autrement, signé Denis Mola, libraire fort connu puisqu'il dirige la librairie Mola à Bordeaux. Un livre avec des commentaires et des textes d'un certain nombre d'auteurs et d'intellectuels. Manifeste pour la librairie et les lecteurs. Une question ici en public au Salon du Livre de Paris. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir. Je vous avais parlé tout à l'heure du rôle des prescripteurs en matière d'édition. Quel regard vous portez sur le développement via Internet des plateformes avec des systèmes de notation, de commentaires qui permettent à n'importe quel lecteur de donner son avis, de recommander un livre ou au contraire de le décommander? Et dans quelle mesure avez-vous le sentiment que ces commentaires-là peuvent envahir votre profession d'éditeur?
Qui veut réagir? Ludovic Escande.
Moi, je suis... D'abord, je ne veux pas opposer le numérique au livre physique. Je pense que les deux coexistent, et c'est important de le souligner, et que le numérique apporte des choses au livre qui sont essentielles. Après, concernant les commentaires qu'on trouve sur Internet, c'est le signe, pour moi, je trouve ça positif...
D'une vitalité.
Il y a un débat, les gens donnent leur avis, en bien ou en mal, et à mon sens, à partir du moment où la critique est argumentée, elle est valable, elle est recevable, et c'est très important, cette vitalité. C'est très important que les gens puissent aussi s'exprimer et donner faire des commentaires sur les livres. Moi-même, je les lis. Je lis souvent des commentaires pour des livres que je publie, et je trouve ça tout à fait intéressant.
Une autre question dans le public ici au Salon du Livre Livre Paris.
Oui, bonjour. Pour rebondir sur votre sujet sur les commentaires, il peut aussi survenir que ces commentaires négatifs émanent peut-être de manœuvres concurrentielles visant à discréditer tel ou tel ouvrage. Et donc à amener l'éditeur à reculer la sortie d'un livre s'il fait une nouvelle édition. Enfin, ça, fin d'une parenthèse. Sinon, ma question principale était axée donc sur l'avenir et l'état actuel du marché du numérique. Pensez-vous que tant du niveau de l'offre que de la demande en France, elles se maintiennent à un niveau que l'on connaît aujourd'hui, que d'un point de vue culturel et quel que soit les âges, le numérique restera dans ses limites actuelles, parce qu'un livre est avant tout un livre papier, et qu'il faut juste envisager une production marginale uniquement pour les gens qui vont partir en vacances, donc qu'ils puissent prendre un maximum de livres dans leur tablette, ou bien pour Noël, pour offrir un maximum de livres pour les enfants.
Réaction rapide sur cette question.
Oui.
Hélène Fiamma.
Je suis bien incapable aujourd'hui de vous dire que dans 10 ou 20 ans, la part du numérique sur le marché du livre sera de temps ou de temps. Honnêtement, je ne suis pas capable de le faire. Ce que je peux simplement vous dire, c'est qu'il y a en effet 15 ans, tout le monde s'imaginait que le livre papier mourrait et que le livre numérique le dévorerait. Ça n'est pas absolument pas le cas aujourd'hui. Les taux de progression sont au fond très faibles. Rappelons en effet une chose, le parler est intéressant, quand la télévision est arrivée, la radio était morte, hein. Tout le monde l'a dit. La radio avait quelques années à vivre.
Avec l'histoire, on peut trouver d'autres contre-exemples. Hein. L'iPod a quand même atteint très fortement l'industrie du disque.
Vous aviez la radio avec l'image, personne ne pouvait imaginer que la radio vivrait. Et aujourd'hui, par exemple, pour les éditeurs, la radio, c'est un des prescripteurs les plus puissants.
Puisqu'on est sur la question des prescripteurs, on n'a peut-être pas fait le tour encore de ce sujet. Quels sont, selon vous, peut-être, Sophie Charnavel, les nouveaux prescripteurs? Vous en avez décrit tout à l'heure un certain nombre. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire de ce côté-là pour essayer d'identifier des nouvelles manières de promouvoir les livres quand la presse, parfois, est moins engagée sur ce sujet qu'auparavant?
C'est sûr que sur, il va falloir en tout cas inventer, sentir, aller voir ce qui se passe, ce qui est toujours très bon signe. C'est-à-dire qu'on a toute une nouvelle génération qui s'empare des outils, que ce soit YouTube, que ce soit Twitter, Facebook, et qui parle d'un truc, c'est l'actualité littéraire. C'est quand même une très très bonne nouvelle. Je pense qu'il faut absolument pas s'en inquiéter, au contraire, essayer de leur parler, essayer de voir avec eux comment on peut lancer des passerelles, mais je pense que c'est en aucun cas une mauvaise nouvelle.
Alexandre Moati, sur ces questions, une réaction peut-être peut-être à la question monsieur numérique digital.
Moi je suis j'apprécie beaucoup le numérique, je fais la connaissance sur Internet, mais je pense comme vous que le livre papier va pas disparaître. Je disais, quand on se demande qu'est-ce que le numérique fait au livre, pour reprendre une expression à la mode, il y a aussi un autre aspect qui concerne pas les éditeurs, mais qui est une formidable redynamisation, c'est le marché du livre d'occasion. C'est-à-dire, moi, par exemple, en tant qu'universitaire, quand je me documente, je peux trouver n'importe quel livre sur Internet. Et pas forcément sur les grandes plateformes. Ouais. Oui, de livres plutôt anciens, donc dans les années 60, 80 même, et pas forcément sur les grandes plateformes, dans des sites de libraires, à travers toute la France, si vous voulez. Et ça, je crois que c'est quelque chose que le numérique fait en au marché au livre en général. Voilà.
Pour terminer cette émission, j'ai envie de vous demander à tous les trois éditeurs, peut-être juste comme ça un petit conseil de lecture. On est quand même dans un salon qui parle des livres, alors autant conseiller un livre chacun, peut-être un livre que vous avez lu et aimé récemment, en même temps extérieur si possible à votre maison d'édition. On commence par vous, Hélène Fiamma.
Je vote instantanément pour un livre que j'ai absolument adoré. Je crois que j'en ai offert au moins 20 exemplaires moi-même, qui s'appelle L'homme qui savait la langue des serpents. L'auteur est estonien, je suis incapable de prononcer son nom. C'est aux éditions du Tripode et c'est absolument génial.
Ludovic Escande.
C'est un livre qui est sorti en 2000 chez Stock de Annie Lebrun et qui s'appelle Du trop de réalité. Et elle explique comment le fait que on détruise la nature s'accompagne au fond d'une perte dans l'imaginaire qui a des répercussions dans l'imaginaire des gens. Voilà.
Sophie Charnavel, pour terminer.
Moi, c'est un livre que j'ai lu la semaine dernière et qui m'a émue aux larmes, qui est un livre de François-Guillaume Laurin chez Flammarion qui s'appelle Vent maison de famille et qui est drôle, touchant, sublime.
Ces trois ouvrages sont à trouver sur Twitter au mot-clé Soft Power. On se quitte avec le clarinettiste new-yorkais David Krakauer qui sera en concert ce mardi 22 mars à la salle Jacques Brel de Pantin en région parisienne dans le cadre du festival de jazz banlieue bleue. Il se produira d'ailleurs avec le groupe de musique électronique toulousain qui s'appelle Anachronique, si je ne me trompe pas. On en reste là pour ce soir. Merci infiniment à Sophie Charnavel, éditrice chez Fayard, Ludovic Escande, éditeur chez Gallimard, Hélène Fiamma, éditrice chez Payot et Rivage, Alexandre Moati, merci pour nous avoir aidé à distinguer digital et numérique. Promis, on fera plus la confusion. Dimanche prochain, je recevrai Jérôme Fenoglio, le patron du journal Le Monde. Vous pouvez vous abonner à nos deux podcasts, Soft Power et l'alphabet numérique, sur le site franceculture.fr. Cette émission a été préparée ce soir par Mathilde Wagman, Community Manager David Lavaux, à la régie Élise Le, Gilles Manet et Stéphane Beaufils. Soft Power, l'émission de Frédéric Martel, réalisée ce soir par Perret Legras. Dans un instant, il sera 20h. Vous retrouvez Secret Professionnel avec Charles Danzig. Bonne soirée à l'écoute de notre chaîne.